You know, Billy, we blew it.
What? That's what it's all about, man. I mean, like, you know.
We blew it.
Please, I need help.
Where's the gun?
Una, R, two, V.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una, R, two, V.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Les films reflètent qui nous sommes. Alors, qui sont-ils, ces Américains d'aujourd'hui? On a 10 jours pour plancher à Deauville, en direct de l'hôtel Barrière, le Normandie, pour cette 43e édition du Festival du cinéma américain. 43e déjà. Bonjour tout le monde, et Laurent, I'm so happy to see you again. Salut.
Ah, mais me too aussi, moi aussi, bienvenue à toutes et à tous.
Alors oui, s'il s'agit de savoir comment vivent et à quoi ressemblent vraiment les Américains, c'est sans doute dans le cinéma indépendant qu'on aura la réponse. En compétition, 14 films et un président. Bonjour Michel Hazanavicius.
Bonjour, comment allez-vous?
On peut le dire, une rentrée redoutablement occupée pour vous. À vos côtés, la présidente d'un autre jury, celui de la Révélation. Bonjour Emmanuel Berco.
Bonjour.
Accompagné d'une sacrée actrice dans votre jury, Anaïs de Moustier, bienvenue.
Merci.
Juste après vous, nous recevrons les frères Safdie, les auteurs de Good Time, avec Robert Pattinson et enfin un grand producteur de musique américain, Clive Davis, au cœur d'un documentaire présenté ici à Deauville.
Qu'est-ce que tu fais ici, bastard, hein? Qu'est-ce que c'est trame?
Il se trame que je suis en congé, Bill, ni plus ni moins.
Come on, cut the crap, hein? Je te connais, Hubert. Quand t'es là, c'est qu'il y a de grabouges dans l'air.
Crois-moi ou non, Bill, je suis venu ici pour les femmes et les plages. On m'en a vanté les charmes. Et je tenais à vérifier ce qu'on dit sur les brésiliennes.
Come to the draw, my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch!
Une grande réplique en anglais, Michel Hazanavicius dans SS Rio, ne répond plus. L'Amérique, vous connaissez, pour y avoir tourné The Artist, y avoir été consacré avec la même artiste, c'est vrai. Qu'en lisant les résumés des 14 films en compétition, au cœur de laquelle une jeunesse cherche ses racines et son avenir, on se dit que le tableau n'est pas très rose. Est-ce que la véritable Amérique, vous croyez, est dans ces films indépendants que vous allez voir?
Oh, alors là, vraiment, j'ai du mal à prendre, un truc aussi gros que l'Amérique, ouais. Rentrer dans 4 petits... Donc, je sais pas, j'ai des petits bouts de vision de type qui veulent faire du cinéma et qui font des films, donc c'est une mini-vitrine de quelque chose de trop grand, quoi.
Avec des sujets plus graves que les films de studio qu'on a l'habitude de voir, quand même.
Oui, peut-être, mais il y a des films de studio, je sais pas, La Planète des Singes, moi je trouve qu'il y a un truc...
Ça dit des choses sur l'Amérique actuelle?
Mais je sais pas, en fait. Ça prête des ambitions, à mon avis, trop grandes pour les films, de dire des choses sur... Mais c'est des petites manières de voir. La Planète des Singes, je jure, c'est un film qui peut être considéré comme un film noir. Mais Cars aussi raconte des choses. Je hiérarchise pas, en fait. Donc, quand des gens de talent font des films, quels que soient les Eastwood, Scorsese, ils font des films dans les studios. Donc,
Bien sûr. Et vous êtes un peu américain dans l'âme, parce que vous dites, ce que j'aime, c'est créer un spectacle et que les gens s'y amusent. C'est ça l'important, quand on fait du cinéma. C'est
au moins qu'ils ne s'ennuient pas. On est obligé de s'amuser, mais j'essaie que les gens ne s'ennuient pas. Ouais.
Emmanuel Berco, vous dites que vous êtes une fervente américanophile. Ça veut dire quoi?
Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas si le mot existe. J'ai dit ça, si le mot n'existe pas, ils ne le mettront pas.
Non, mais qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma américain? Les scénarios?
Alors, c'est pas simplement le cinéma américain. J'aime les États-Unis. J'aime ce pays, j'aime les gens, j'aime ces paysages, j'aime cette atmosphère, tout ça, cette façon de vivre.
Le président américain, tout ça, vous l'aimez bien?
J'aurais envie de vous dire oui, parce que j'ai envie de rien rejeter aux États-Unis, mais non, j'aime pas tellement.
On a eu Pétain, nous. Hein.
Non, mais attention.
Oui, non, mais je veux dire, faut pas réduire un pays à la
région. Non. Et puis, il est que de passage. Hein. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi forcément énormément associé au cinéma, et que même quand je vais aux États-Unis, je m'aperçois que je suis à la recherche de mes souvenirs de cinéma. Je ne suis à la recherche que de ça, en fait. C'est assez étrange.
Vous avez quoi en tête comme film qui passe, là, quand je vous en parle?
Vous ne me demandez pas des trucs qui font appel à ma mémoire qui n'est pas encore réveillée.
Des Scorsese.
Tape la tête.
Des Scorsese,
Manhattan.
Manhattan, très bien, Woody Allen.
Ah oui, et quand tu vas dans quelle ville? Vas-y.
On se le demande. Anaïs de Moustier, vous, par exemple, comme actrice, les acteurs américains,
sont fascinants.
Ils sont fascinants ? Pourquoi ? Ouais. Ils sont plus fascinants que des Français ?
Mais je ne sais pas très bien, c'est quelque chose d'assez mystérieux, mais ils ont l'air d'être... tout a l'air plus facile, tout a l'air plus ludique, tout a l'air plus assumé, je les sens sans complexe, et j'ai l'impression qu'ils ont un plaisir du jeu immense, en fait. Et donc, je ne sais pas, ça, je vois souvent les acteurs américains... avoir du plaisir à jouer, mais vraiment, je les sens s'amuser de ce qu'on peut faire. Et je pense qu'il y a un truc de travail aussi qui est plus décomplexé qu'en France. En France, souvent, les acteurs aiment dire qu'il ne faut rien, puis que c'est leur instinct qui suffit. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, voilà, ils travaillent, ils se modifient, ils ont le plaisir du travestissement. Et donc, ça fait des espèces de parcours hallucinants avec des Dustin Hoffman et des Kate Winslet qui de loin, comme ça, se trouvent pour moi comme des monstres, en fait, vraiment.
Et pourtant, un acteur français comme Jean-Louis Jardin, il correspond à tous ces critères, il s'amuse aussi en jouant.
Oui, complètement, oui. Mais la frontière, elle est quand même, tout ça est perméable. Les Américains ne sont pas comme ça. Mais par contre, je trouve qu'il y a un truc dans la langue. La langue, elle permet des modulations énormes, alors que le français est quand même assez monocorde. Et la langue américaine, je vais pas vous le faire, mais quand ils disent par exemple amazing, ça prend des, tout est, ils peuvent
It's
vraiment mettre.
It's just like wow.
Ouais, exactement.
J'aimerais faire ça.
Non, mais donc ça permet.
C'est peut-être parce que le cinéma français oublie ses accents, parce qu'un Marseillais qui dit étonnant, c'est autre chose qu'un Parisien qui dit.
Oui, mais on fera pas.
Oui, mais vous oubliez les accents, vous les réalisateurs.
Tu vois, on fera pas ça. Ouais. Peut-être, oui, qu'on oublie nos accents. Ouais.
C'est important de récompenser les débuts d'un cinéaste, Emmanuel Berco, parce que vous êtes au jury de la révélation.
Oui, mais nous, on n'est pas chargé de récompenser les débuts d'un cinéaste. C'est ça qui est bizarre.
Parce que
Parce que ça s'appelle révélation. Et j'ai bien posé la question hier à Bruno Bard, qui dirige le festival. Et il faut que ce soit pour nous une révélation. Mais ça peut être quelqu'un qui a 60 ans et qui a déjà fait 4 films.
Donc...
On voit exactement les
mêmes films.
On a un regard plus jeune, plus frais, plus punk sur les films. Ils vont être plus traditionnels, un peu classiques.
Tais-toi
un peu
Berco. Voilà, merci. En fait, là, c'est le jury junior. Dès que vous voulez des vraies questions, vous me demandez. C'est à moi qu'il faut demander.
Alors, une vraie question, justement, Michel Hazanavicius. Oui. À Cannes, c'était un vrai débat sur Netflix. Ici, on ne s'en encombre pas de ce débat. On peut passer des films qui seront ensuite diffusés en e-cinéma, alors que le cinéma, vous faites des films pour le grand écran.
Moi, je fais des films dans un marché qui me permet d'aller dans le grand écran. Mais si je me retrouve dans une situation où le choix, c'est de faire un film pour Netflix ou ne pas faire mon film, le choix, il est fait. Je vais chez Netflix et il y a même pas... La question ne se pose pas. Donc, voilà.
Mais quand on filme en grand, on imagine ça pour quelque chose de grand quand même, non ? Avec des détails dans l'image.
Ouais, mais quand on
n'imagine pas ça
sur
un petit écran d'ordinateur.
Pour vous, il n'y a pas de combat, c'est perdu.
Non, rien n'est perdu. Je pense. Alors, attendez, d'abord, Netflix, c'est pas que un ordinateur. Vous pouvez aussi projeter
sur un grand écran, chez soi.
Ensuite, entre filmer en grand et ne pas filmer, je vous dis, filmer en plus petit et ne pas filmer.
On comprend votre point de vue.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, les distributeurs vont avoir un point de vue de distributeur. Ils vont défendre leurs intérêts. Les exploitants vont défendre les intérêts. Moi, j'essaye de réfléchir du côté des films. Et du côté des films, c'est la fabrication qui compte. C'est pas le combat, il n'est pas du tout perdu. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est obligé d'avoir les mêmes règles pour tout le monde, un film à 180 millions de dollars et un film à 500 000 euros? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas trouver des combinaisons possibles qui fait qu'un film, au lieu d'aller mourir tout de suite en salle, il peut peut-être être travaillé d'abord sur sur Internet, sur des plateformes, et ensuite peut-être sortir en salle, etc. Aujourd'hui, c'est très, très, très fermé. Il n'y a pas de discussion possible. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit perdu, mais il faut que les gens se mettent autour de la table. On ne peut pas, si vous voulez, d'un côté dire « Ah, c'est une catastrophe, il y a trop de films toutes les semaines », et en même temps, des endroits où on pourrait passer des films, se les fermer et refuser qu'ils existent. C'est-à-dire, il faut redistribuer tout ça. Moi, je suis pour la concertation, je suis pour que tout le monde s'aime, et que les exploitants, les distributeurs et les fabricants de films fassent une ronde ensemble.
Aimons-nous.
Voilà, exactement, et qu'on chante des chansons. Parce qu'en France, tout finit par des chansons. Et vous verrez que dans quelques années, on en rira tous.
Emmanuel Berco, vous n'avez jamais reçu de proposition de l'Amérique ?
Jamais. Moi, oui.
Oui, un petit peu. D'ailleurs, j'ai lu quelque part, Michel Hazanavicius. Attendez, je fais une parenthèse. Vous deviez réaliser Le Pont des Espions.
Non, n'importe
avec
quoi.
Avec Tom Hanks. Mais si, c'est un projet que vous avez proposé.
Mais arrêtez de me dire n'importe quoi. Je sais ce qu'on m'a proposé. Non.
Je vous ai vu le dire.
Mais c'est pas...
Si.
Non.
Mais
c'était
si...
un autre film avec des espions, en effet, avec Tom Hanks. Avec... En effet.
Ah mais d'accord, c'est pas le même.
Des espions. Voilà, ça
et pourquoi vous n'avez pas suivi ces propositions?
Mais non, mais on parlait de...
Alors, Emmanuel Berco.
Non, non, mais moi, je ne l'ai pas eu, donc on préfère continuer à parler mais de toi, qui en a eu tellement.
Non, non, mais par exemple...
Berco,
c'est un couteau tiré.
Toujours pour jamais parler d'elle. Répondez-vous.
Mais non, je n'ai pas eu de proposition des États-Unis, bien que j'ai un agent américain qui...
Ah, vous avez un agent
est
américain.
Très actif. Ah oui, parce que les Américains sont curieux et sont accueillants.
Oui.
Donc ils viennent chercher des jeunes talents. Des jeunes talents européens.
On l'imagine bien après, jouer dans un film américain.
Après, ouais. Non, non, pas pour l'instant, pas sérieusement, quoi.
Mais vos films sont sortis là-bas?
La plupart, oui.
Et ont reçu un bon accueil?
Oui, enfin, vous savez que l'audience des films français ouais. Aux États-Unis, même pas. Mais reçu un très bon accueil par les gens qui l'ont vu. Pas des gens qui.
Le gens qui l'ont vu. Le gens qui l'a vu.
Et vous, Anaïs de Mousty, d'abord, vous parlez.
Ça va mal finir, ça fait. Hein.
Moi, non, je n'ai pas non plus de proposition outre-Atlantique. Mais j'ai passé une fois. Moi, j'avais envie de le caser. Okay. Non, j'ai passé une fois un casting pour Tarantino, dont je garde un souvenir atroce.
Ah oui, j'en ai entendu parler de ce casting.
Il était pas là physiquement, mais c'était une espèce de boucherie parce que d'un coup, toutes les Françaises veulent faire le film.
Ah oui.
Donc, on revient de, je sais pas si on est à l'autre bout de la France, on revient, on nous dit qu'il faut avoir une robe années 40. Donc, on va chercher une robe années 40 partout dans Paris en plein mois d'août qu'on ne trouve pas. Et on arrive un peu déguisé à un casting atroce où on nous dit, non, mais c'est beau, il a déjà choisi, laisse tomber, ça sert à rien. On montrera même pas ta cassette.
Voilà. Enfin, Mélanie Laurent, elle a une autre version de l'histoire.
Bah oui.
Je vais pas dire.
C'est pas beau de dénoncer.
Je vais vous libérer parce que vous allez voir votre premier film. Merci à tous
les
trois.
Merci.
Amusez-vous beaucoup jusqu'au 10 septembre, date de la clôture de ce 43e festival du film américain. En attendant de retrouver les deux cinéastes new-yorkais, Benny et Josh Safdie, LCD Sound System, Call the Police. En direct du 43e Festival du film américain de Deauville en public. Ah, voilà, voilà. Ça fait du bien, Laurent. Hein.
Eh oui, merci.
Josh et Benny Safdie, deux frères new-yorkais, trentenaires, élevés dans le Queens et soudés depuis l'enfance. Leur quatrième film, Good Time, était en compétition à Cannes et revient à Deauville. Une histoire de braquage qui tourne très mal. Connie Robert Pattinson veut sauver son frère Nick, joué par Benny Safdie, déficient mental. Résultat, une folle cavale nocturne, un polar nerveux, fiévreux, où il s'agit de vivre vite et d'échapper au système qui les condamne. Voici les frères Safdie, traduits par Harold Manning.
Next.
You're incredible, do you understand?
Yeah.
I'm serious, you think I could have done that without you standing next to me being strong? Are you feeling this? Are you feeling the colors I'm feeling right now?
Yeah, I'm cold.
You're cold?
Yeah.
Let's get to Virginia, man.
Just keep your head now.
Turn around. He's all right. We didn't do it.
Whoa, whoa, get back here.
Bonjour Josh.
Bonjour.
Bonjour Benny.
Bonjour.
On vient d'entendre un morceau de la bande-annonce de votre film Good Time et on sent tout de suite l'énergie, la fièvre. On sent que ce film est une lutte contre le temps pour vivre vite et vivre l'instant.
Yeah, right now I'm experiencing jet lag. I'd love to watch the film myself.
Et moi-même, je qui suis en plein jet lag d'après l'avion, j'aimerais moi-même regarder le film maintenant pour voir ce que ça donne dans ces conditions-là. Pour moi, cette histoire de temps, c'est un petit peu ce qui va contre toutes les solutions. Et donc, je me bats tout le temps contre le temps, moi-même. Et d'habitude, toujours, j'aime vraiment décrire des personnages qui vivent dans l'instant. Et puis, avec ce film en particulier, c'est un film qui avance vraiment à la vitesse du héros, Connie. Et ce sont des proportions qui sont vraiment très importantes vraiment à communiquer au public, parce que l'on veut que le public soit vraiment, vraiment complètement rivé à son fauteuil et qu'il suive l'élan. On avait envie de faire comme un roman pulp, quelque chose qui soit dangereux, presque quelque chose de jetable comme histoire et comme film. Dans l'histoire du spectacle, le pulp, le roman pulp, on peut vraiment y glisser des idées. Vous savez, comme ces séries B, des fois on glisse des idées, on peut y mettre dans ces films-là.
Le style du film rappelle le cinéma des années 70, le fond aussi, avec l'idée que d'un échec dans nos sociétés et des types qui font tout pour échapper au système, un peu comme dans les années 70.
Oui,
moi je ne vois pas ce film comme étant un film sur un loser, mais sur un gagnant, quelqu'un qui... Ça me fait du mal vraiment d'entendre des histoires de gens qui sont des échecs. Et pour moi, Connie, il a un héroïsme. Et son héroïsme, c'est qu'il refuse de perdre. C'est quelqu'un, quelque part, qui se libère. Il fait partie de ces 40% d'Américains qui n'ont pas voté pour le président qui a été élu. Il y a un élément très humain quand on est spectateur de regarder quelqu'un qui se bat, qui essaye. De voir ce personnage essayer et quand il ne réussit pas, quelque part, c'est encore plus humain.
Il y a quand même un côté, un combat perdu d'avance, quoi, un truc inéluctable, un cauchemar, un very bad trip.
Oui, c'est surtout que, après coup, quand on a avancé à tellement d'une grande vitesse, quand on a avancé tellement vite, la pause, l'arrêt, c'est vraiment comme quand on, après un trip à l'acide, il y a une retombée. Et ça, c'est très dur. Et lui-même ne peut pas comprendre ce qu'il doit affronter. Il arrive à voir l'avenir à 10 secondes près, mais il n'arrive pas à voir le passé. Puis vous parlez d'un combat. Connie, qui est joué par Robert Pattinson, il joue un ancien taulard. Et en Amérique, le système pénal vous oblige à être un perdant. Et ce film s'appelle Good Time. Parce qu'en Amérique, si jamais on se comporte bien en prison, eh bien, on peut être libéré de prison avant la date. C'est ce qu'on appelle le Good Time. C'est de l'argot américain. Et nous, on montre quelqu'un justement qui va gagner ce good time, va pouvoir sortir, mais qui va revenir en arrière. Il voulait tellement se battre contre le système, et c'est pour ça qu'il ne veut pas que son père se retrouve mêlé dans la bureaucratie, coincé là-dedans. Il ne veut pas retourner en prison, et c'est pour ça qu'il méprise le personnage de Ray. C'est parce qu'il veut se battre contre le système. On a rencontré quelqu'un dont le travail est vraiment de faire réinsérer des prisonniers dans la société. Et lui-même avait fait de la prison pendant 15 ans. Un type incroyable. Et on a écrit le film, les auteurs, on a écrit ce film en l'écoutant. Et ce qu'il nous disait, c'était qu'on voulait vraiment construire un personnage, quelqu'un qui soit vraiment un vrai, quelqu'un qui sorte vraiment de prison. Quelqu'un qui se cogne contre tout, contre la réalité. En prison, tout est... fait pour, et fabriqué pour qu'on ne se cogne contre rien, qu'aucune réalité, tout est quelque part confortable. Alors que là, la sortie de la prison est très compliquée.
On parle de Cassavetes pour votre style, mais moi je pense aussi à Lumette, bien sûr, un après-midi de chien. Et même à 7h58 ce samedi-là, le dernier film qu'il a réalisé, qui était un hold-up familial commis par deux frères. Parce qu'en fait, cette histoire, c'est un frère qui veut sauver son autre frère, qui veut lui faire vivre une dernière grande aventure.
I think that, you know, the movie, there's a documentary about John Vojvodich, who's Sonny, the character.
Vous savez, il y a un documentaire qui existe sur John Vojvodich qui joue Sonny dans Un après-midi de chien. Et ce documentaire s'appelle Le Dog. The Dog. Et il y fait un discours sur l'amour. Et il se demande qu'est-ce que les gens sont prêts à faire au nom de l'amour. Et le juge lui dit, si jamais votre femme tombe malade, est-ce que vous l'aimerez toujours? Est-ce que vous l'aimerez toujours, toujours? Et il dit oui. Et si jamais on vous donne de l'argent, est-ce que vous garderez cet argent-là pour l'aider à survivre? Et le juge répond, oui, bien sûr. Parce que même cet homme brise la loi et va contre la loi, au nom de la loi, je ne pourrais pas tout savoir. Et ça veut dire que vous ne savez rien de l'amour. Vous ne savez même pas ce que c'est que l'amour. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment résonné en moi. Et j'ai été moi-même obsédé par l'amour, comme quelque chose qui peut être quelque chose, véhiculer tellement de choses. Quelqu'un qui a vu notre film a dit que ça lui rappelait un après-midi de Dog Day Afternoon, un après-midi de chien, et aussi de Rain Man, c'est incroyable.
Est-ce que le côté autobiographique, c'est pas le lien unique que vous avez entre vous depuis l'enfance, à tel point que votre père un jour a dit à Alain, lui, c'est la seule chose sur laquelle tu pourras compter toute ta vie. C'est fort, ça.
Yes, no, I think in a way we didn't realize.
Oui, je crois que d'une certaine manière, on ne se rendait pas compte qu'on faisait un film sur ce que c'est qu'être frère. C'est presque devenu. Surtout puisque moi je jouais dans le film, encore plus ça l'a été pour moi. C'est devenu une passion, ça m'a mis vraiment dedans. Et c'est comme si on s'était un peu coupé de l'amour fraternel que nous avons et que cet amour coulait dans le film et qu'on ne pouvait plus s'en sortir. Donc on peut bien comprendre l'idée que, effectivement, c'est quelque chose qui appartient à notre vie. On avait cette, on nous a toujours dit dans notre enfance que nous serions toujours l'autre pour et qu'on pourrait toujours s'aider, s'entraider, et qu'on pourrait toujours se retrouver si jamais on se fâchait. Notre père utilisait la métaphore. Il regardait tous les deux et disait, regardez, voilà, vous deux, c'est ce que vous avez dans la vie. Vous êtes partenaires en crime tous les deux, pour toujours.
Merci à Twilight de nous avoir révélé Kristen Stewart et Robert Pattinson. D'ailleurs, c'est lui qui est venu vous voir. Il y a un truc qui est incroyable avec lui, c'est son implication, son enthousiasme. On sent qu'il a un appétit, même dans l'interprétation du rôle. Il a faim de ce genre de rôle.
Quand il nous a contactés, en nous disant, je veux faire partie du projet, votre prochain projet, quel qu'il soit, on travaillait autour de plusieurs idées pour effectivement ce film. J'avais l'esprit assez ouvert quand je l'ai rencontré et je ne savais pas quoi attendre de lui parce qu'il est très célèbre. Mais la personne que nous avons rencontrée, c'était quelqu'un qui avait plein de manie, qui était plein d'une envie de liberté, quelqu'un de traumatisé par le phénomène Twilight. Et il était comme un vétéran du Vietnam avec des maladies. Tout le temps, il voulait être invisible. C'était comme s'il était en train de fuir, un fuyard de la police. Et il nous a vraiment donné tout. C'était la seule personne sur le plateau qui jamais ne s'est plaint. Et comme il a beaucoup lu autour du film, il a vraiment lu énormément de choses, il a lu des récits de prisonniers, il a regardé plein de documentaires, mais aussi il nous a donné beaucoup de temps. Beaucoup de semaines de travail, de recherche sur son personnage. Pendant des semaines, il est venu travailler avec nous. Il s'est vraiment, vraiment impliqué dans ce rôle.
New York a été filmé des milliards de fois. Est-ce que c'est compliqué d'essayer de trouver des plans originaux? Je sais que c'est votre quartier natal, le Queens, mais est-ce que Il y a une grande histoire avec New York. Comment on fait?
I think that there's a documentary called LA Plays Itself.
Il y a un documentaire qui s'appelle LA Plays Itself.
And he talks about how
où
you
Tom
can
Anderson
show,
parle de comment
there's very few cities in the world
il y a très peu de villes où on peut le faire, où on peut montrer un mètre carré et on sait exactement où le mettre sur la carte quand on le voit dans le film. Je pense qu'on ne peut comprendre une ville que par sa culture propre, régionale, locale. Et ça m'a toujours vraiment intéressé le côté très local de la société. Parce qu'on y trouve un aspect très humain.
The news site that that broadcasts local news,
c'est
you know, the regional
comme
news.
Par exemple cette station où on parle des, où on donne les nouvelles locales.
Than, say, CNN. Yeah.
Et you know, c'est quelque chose de complètement différent comme ambiance, comme studio que le studio de CNN. Là, on pourra voir ou comment est-ce que là-bas les présentateurs présentent les nouvelles. Et le Domino's Pizza, la pizzeria locale, elle va être très différente de la pizzeria qui aura à Times Square. Et donc, on veut tourner vraiment dans des endroits qui nous importent, qui sont proches. Quand on lit le Daily News, quand on lit les crimes, les faits divers, ils y parlent vraiment de lieux que tout le monde connaît, eux. Queens Boulevard et 16th Street. Et du coup, ils décrivent vraiment des endroits qui sont extrêmement précis. Avec une importance, et nous on a essayé de faire la même chose en fin de compte. Ça n'est pas vraiment un vrai crime, mais on essaie vraiment d'approcher les choses et de montrer les choses comme si ça s'était vraiment passé.
Et
puis, en filmant à New York, on peut regarder les buildings, on peut regarder en l'air, on peut regarder, mais on peut regarder vraiment le trottoir. Et nous, c'est ça, on regarde vraiment très proche, on ne va pas regarder très au loin, on regarde nous dans nos films proches de nous.
Queens, c'est le quartier natal de Trump, non?
Oui, c'est le cas, oui.
Trump is... I don't know how much Queens is willing to
je ne sais pas si le Queens
that,
tient vraiment à accepter ça. Il vient d'un coin du Queens qui est très... C'est intéressant que vous, disiez ça, parce que quand on voyage, quand on se balade dans le Queens, c'est que l'on voit ces grands bâtiments que son père a construits d'ailleurs.
Queens, in Jamaica, in Rego Park...
À Rego Park, à Jamaica, je comprends vraiment pourquoi les gens peuvent être attirés par quelqu'un comme Trump. Parce qu'on ne voit pas Bloomberg, qui a été le maire, et qui était milliardaire lui-même. Mais on ne voit pas son nom sur les rues et sur le coin des bâtiments. Alors que Trump a capitalisé vraiment sur le fait qu'il fait partie du paysage et qu'il fait partie de leur milieu. Et on peut quelque part avoir une fierté pour les gens de ce quartier-là de voir Trump aujourd'hui. Ils sont partout. Il a son nom partout. C'est étrange, cette dichotomie.
But then you look at those buildings and you see that
mais si vous regardez un peu ces bâtiments, parce que
but,
maintenant on sait qu'il n'autorisait pas tout le monde à même trouver des loyers dedans. Il ne voulait pas les avoir comme vacataires et comme qu'ils aient un appartement chez eux. Quelqu'un comme Trump, il y a aussi Richard Feynman, le prix Nobel de physique, ou Paul Simon de Paul Simon et Garfunkel. C'est vraiment un coin à New York, un quartier où il y a beaucoup de personnalités différentes qui ont grandi. Saviez-vous que le Queens est l'endroit le plus divers dans toutes les villes du monde, le quartier du monde entier où il y a le plus de nationalités représentées?
Love, make me queen. Touch me, cure me.
Good Time sortira donc le 13 septembre prochain. Nous sommes toujours en direct du 43e festival du film américain de Deauville où nous accueillons Clive Davis. Très grand producteur américain de musique au cœur d'un documentaire présenté ici à Deauville, Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives. En gros, la BO de nos vies de Chris Perkel. Votre vie et votre incroyable parcours de vos débuts chez Columbia Records jusqu'à votre travail de défricheur chez Arista Records et Jay Records, une histoire américaine à votre répertoire des révélations, des découvertes, Janis Joplin, Santana, Simon & Garfunkel, Springsteen, Miles Davis, Patti Smith, Aretha Franklin, Whitney Houston. Une première, entre autres, une première question, Clive Davis. Vous étiez avocat à la base. Comment êtes-vous devenu, parce qu'on vous appelle comme ça, The Golden Ears, comment êtes-vous devenu les oreilles d'or?
I got into music totally by accident.
Je suis entré en musique complètement par accident. Voilà un message pour votre public. Il ne faut absolument rien planifier dans la vie. J'ai perdu mes parents quand j'étais adolescent. Je n'avais pas d'argent. Et donc, je me suis lancé dans des études d'avocat. Malheureusement, un de mes clients, un de mes premiers clients était Columbia Records. Et donc, j'ai commencé à travailler pour eux. 5 ans plus tard, une autre coïncidence, un autre événement heureux. J'ai commencé à travailler vraiment en tant que dans la tête, vraiment pour l'entreprise. Là, on parle de 67. Et il y avait Janis Joplin, et qui rentrait et commençait à travailler, à enregistrer. Ça a complètement changé ma vie. Elle, avec, c'est vraiment parmi les premiers artistes que j'ai signés.
Monterey International Pop Music Festival, Monterey en Californie, du 16 au 18 juin 1967, 100 000 personnes. Et vous, Clive Davis, on est le 17 juin et vous entendez cette voix, Janis Joplin, avec son groupe Big Brother and the Holding. Et vous la signez dans la nuit même, après l'avoir écoutée.
You know,
vous savez, j'étais dans le public et je ne savais pas quoi attendre. Et j'entends la voix de Janis Joplin et elle m'a fait frissonner. Comme je vous l'ai dit, vraiment, ça a été vraiment une révélation pour moi. La compagnie pour laquelle je travaillais n'allait pas très bien, ils n'avaient pas beaucoup d'artistes rock. Tout le monde était habillé en petites robes pleines de fleurs, etc. Et moi, j'étais là, j'étais complètement en dehors de ce milieu-là, j'étais complètement hors du coup. Et je me suis dit que c'était le moment pour moi d'avancer, de trouver quelque chose. Et je me suis vraiment impliqué dans Janis Joplin, dans Big Brother, Electric Flag, et puis on a continué à travailler à Chicago, etc.
Est-ce que c'est vrai qu'elle va, elle vous a dit, si vous me signez, je couche avec vous?
Vous savez, une signature sur un contrat était quelque chose de très impersonnel pour Janis. Pour m'exprimer l'importance de cet événement, effectivement, elle m'a dit ça. Elle m'a dit qu'elle coucherait avec moi. J'ai trouvé que c'était très flatteur. J'ai pris ça comme quelque chose, comme un compliment. Qu'on pouvait finalement mélanger le business et le grand plaisir avec elle.
Je crois qu'il faut dire.
Et c'était une relation très personnelle qu'on avait de toute façon.
Il faut dire que c'était une énorme prise de risque, parce que maintenant, Janis Joplin, c'est dans le Panthéon, mais à l'époque, c'est vraiment très, très gonflé de lui faire signer ce contrat.
Sincèrement, je ne dirais pas que ce serait un risque, que c'était un risque. Parce que, normalement, dans ces années-là, quand on signait un artiste rock, ça coûtait 10 000, 15 000 dollars. Et moi, j'ai racheté un contrat qu'elle avait précédemment. Elle n'avait jamais encore enregistré. Elle travaillait pour une petite boîte. Et donc, j'ai avancé cette somme et j'ai mis 200 000 dollars sur la table, qu'on a fini ensuite à partager avec d'autres. Donc oui, c'était un risque, si vous voulez.
Monterey a été très important parce que toute une génération s'est révélée. À Monterey, il y avait Jimi Hendrix, il y avait The Who, il y avait Otis Redding. Et vous, Clive Davis, vous avez senti ce nouveau courant.
Without question, it was a musical revolution.
C'est sûr que c'était une révolution musicale qui se passait devant nous. À New York, c'était difficile de se rendre compte de ce qui se passait à Monterey ou à San Francisco. Et comme j'étais, moi, sur place, et comme j'étais seul là-bas, le seul de l'industrie de la musique à être présent dans cette position, effectivement, ça m'a bénéficié. Il y avait Electric Flag, vous savez, le groupe, Mike Oldfield, etc., à la guitare. Ils écrivaient de très belles chansons. Et comme j'avais vu comment ils jouaient avec la guitare amplifiée, moi je savais, ensuite, et je suis parti de cette expérience-là pour suivre mon instinct et suivre ces musiciens. Et donc, je ne dirais pas que c'était vraiment un don que j'avais. Mais c'est aller vers d'autres groupes et faire avancer cette musique-là, progresser vers d'autres groupes qui sont devenus très, très, très célèbres par la suite. Et c'était effectivement des gens qui ensuite sont entrés dans le Rock'n'Roll Hall of Fame.
Oui, mais il y a aussi l'idée de croire en son instinct quand on écoute ces artistes et puis flairer le succès également.
I'm from the school of doubt.
Moi, je viens d'une école du doute. Même aujourd'hui, quel que soit tout ce que j'ai déjà fait, peu importe, je pense toujours au prochain coup, à ce qui va arriver après. Ce qui était inhabituel à l'époque, c'est que chaque artiste trouvait son public. Et donc, quand ça a commencé à fonctionner pour eux, chacun arriver vraiment à trouver le succès. Avec un peu plus d'assurance, je suis arrivé à croire effectivement à mon instinct. Et toutes ces années plus tard, maintenant, aujourd'hui, ça m'a effectivement très bien servi. Mais tout ça est venu par accident. Et la musique est devenue ma passion. C'est devenu ma vie. Et toujours, je m'implique beaucoup dans la musique.
On va vous faire écouter une autre artiste que vous avez découverte aussi et que vous avez suivie et qui existe encore et qui est une icône pour tout le monde. C'est Patti Smith.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves. Wild cord on my sleeve, thick heart of stone. My sins, my own, they belong to me. Me. People say beware, but I don't care.
Qu'est-ce que ça vous fait, Clive Davis, d'entendre cette voix, cette Patti Smith? La première rencontre avec elle, c'était quand?
Patti Smith, je veux préciser quelque chose.
On parle
là maintenant, 10 ans plus tard, hein, de ce que l'on racontait. Et entre-temps, et on le voit dans le documentaire. J'ai été viré de Columbia après toutes les signatures que j'avais faites. Il y avait quelqu'un qui faisait du mal vraiment à la compagnie et ça a créé beaucoup de problèmes. CBS ne pouvait plus se permettre une enquête. Et donc, il a fallu que je parte. Et donc, c'est pas vraiment du tout une histoire de paix, etc. La vie est vraiment très chaotique dans ce milieu-là. J'ai été victime d'une chasse aux sorcières. Et le film, je crois, le documentaire montre bien.
Oui.
Ça montre vraiment que CBS m'a vraiment donné un chèque de 1 million de dollars par la suite pour commencer une nouvelle compagnie qui s'appelait Arista. Et après avoir trouvé Arista, ils ont entendu parler de cette rebelle, de cette chanteuse qui combinait la poésie avec le rock d'une façon très unique. Moi, je voulais pas. Elle allait de CBGB's dans tous les campus, etc. Elle faisait quelque chose de très particulier. Elle faisait des auditions. Et j'ai pu rencontrer comme ça, et je me suis rendu compte que Patti Smith était très différente des autres artistes. C'était quelqu'un qui vous transformait. Elle n'était pas du tout attirée par le succès commercial. Ça lui était égal. Son rapport aux choses était complètement différent, à la poésie, à la musique. C'était vraiment une pionnière. J'ai trouvé qu'elle était unique. Et donc, je l'ai signée.
Et la troisième interprète, on a choisi que des femmes. Tiens, c'est drôle. Ça, c'est la grande histoire de votre vie. Vous l'avez révélée. Elle avait 16 ans quand vous l'avez rencontrée. C'est Whitney Houston. The way and Clive Davis, ça c'est vraiment votre grande, grande histoire, Whitney Houston.
Je vais vous dire toute la chance que j'ai pu avoir. Clairement, entre Joplin, Patti Smith, et puis il y a eu aussi Bruce Springsteen.
Bien sûr.
Ma très 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 longue carrière avec ces artistes. Mais c'est vrai que, au bout, après toutes ces années, ce sont vraiment les chanteuses, les femmes, Patti Smith, et puis aussi, et puis Annie Lennox aussi, qui était très proche, Aretha Franklin. Je ne veux pas vous donner la liste des courses, mais enfin c'est vrai que j'ai vraiment Aretha Franklin, là, qui était vraiment la reine de la soul. Et oui, j'ai découvert Whitney Houston. Elle avait presque 19 ans. Et moi, j'étais allé la voir. Elle était choriste. Elle était sur le spectacle de sa mère, sur scène, et puis elle était à l'arrière de la scène, choriste. Elle était sur deux chansons, l'une qui s'appelait Home, d'un show qui s'appelle The Wiz, et une chanson que j'avais commandée. Une chanson à propos de Mohamed Ali, The Greatest Love of All. Et moi, j'ai été vraiment étonné en l'écoutant toute la soirée. Et puis ça a commencé là. 10 jours après, je l'ai signé. Et avant même qu'on commence à trouver des chansons, il y a une grande chaîne américaine qui s'intéressait à la nouvelle génération. La génération, vous savez, ça avait changé. Lena Horne venait de disparaître. Et puis, ils ont dit que la prochaine grande chanteuse, ce serait Whitney Houston. Et elle a chanté The Home. Et c'était sa première fois qu'elle apparaissait vraiment à la télévision, 2 ans avant qu'elle ait fait même un disque. Et les gens ont vu à quel point elle était unique et spéciale et particulière.
Et toute la suite, toutes ces artistes et toute votre vie est dans ce documentaire The Soundtrack of Our Lives de Chris Perkel, montré ici à Deauville. Merci beaucoup Clive Davis.
Merci. Merci.
Thank you, thank you.
On va terminer cette émission, Laurent, parce qu'il n'y a pas que Deauville dans la ville, mais aussi le reste de la France, avec les sorties, notamment les films sortis ce mercredi. On va commencer par Petit Paysan, premier film Hubert Charuel.
Oui, c'est un premier film, on va dire, issu, c'est le croisement de Produits Laitiers et de La Fémis. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer, c'est-à-dire que le Hubert Charuel, ben, c'est le fils de producteur laitier, et puis il a fait La Fémis, cette grande école de cinéma, ce qui prouve qu'on... Donc d'ailleurs que cette école n'est pas, contrairement à ce qui se dit un peu trop facilement, une école de la reproduction. C'est aussi une école de la découverte. Et c'est une belle découverte que ce Hubert Charuel, en tout cas son premier film est extrêmement prometteur. Il se passe, bah, comme par hasard, dans l'univers des produits laitiers, en tous les cas de la production laitière. C'est normal, il parle de ce qu'il connaît, et c'est très bien comme ça, sans en faire aucunement un film autobiographique, parce que justement, à partir de cet environnement extrêmement concret de la production laitière, des vaches, magnifiques vaches d'ailleurs, il construit un film dont le climat est parfaitement oppressant, régulièrement, comme ça, un film qui brasse beaucoup de choses. On a l'impression, au début, d'être chez Bruno Dumont, un peu, vous vous souvenez de Petit Quinquin, avec cette vache, cette vache folle, malade, etc. Ben, c'est un peu le même départ, et il en fait évidemment autre chose, c'est un autre univers, mais c'est un très bel univers, vraiment très prometteur, avec un intérêt sur les personnages secondaires, sur un environnement, sur ce personnage principal aussi, cet éleveur qui découvre que ses vaches sont malades, et qui va, il ne faut pas raconter le film, mais qui va traiter cette maladie à sa manière. C'est assez réussi, c'est assez prometteur. En tous les cas, ça montre bien que il y a une nouvelle vague du jeune cinéma français. Elle est en train de se mettre en place et c'est une bonne nouvelle.
Et oui, parce que le scénario est signé Claude Lepape, laquelle Claude Lepape avait signé celui des Combattants.
C'est ça.
Premier film qu'on aimait énormément aussi. Également produit de La Fémis, comme on dit.
Oui.
Et Angoulême, il a eu le Valois de Diamant, carrément. Vous vouliez parler aussi de Gabriel et la Montagne.
Oui, parce que ça, c'est la très bonne surprise peut-être de cette semaine de cinéma. C'est un film du Brésilien Felipe Barbosa. Ça raconte les derniers mois africains d'un voyage au long cours fait par un ami d'enfance du réalisateur. Cet ami s'appelait Gabriel et il a été retrouvé mort au Malawi en 2009. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est le mélange intime entre le documentaire et la fiction, parce que c'est donc une histoire vraie, mais elle est incarnée par des acteurs. Et jamais Barbosa ne quitte l'un ou l'autre domaine, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas entre le documentaire et la fiction. Il fait rencontrer des vrais personnages, entre guillemets, tout au long de la façon de renouveler ce voyage et de refaire plus précisément ce voyage. Il y a un doux mélange entre, d'un côté, ce serait du Werner Herzog et de l'autre, Into the Wild, et même Cerise sur le gâteau. Et dans ma bouche, ça va être un gros compliment, du James Gray, du dernier, de Lost City of Z. C'est-à-dire, c'est un film comme ça, de formation, c'est un film de découverte, c'est un film de jungle, c'est un film de formation, oui. Et ça, c'en est très, 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 très émouvant.
On a très peu de secondes, Laurent, juste pour dire qu'il y a un livre sur Scorsese qui sort.
Oui, Martin Scorsese, anti-scène, comment ne pas en parler ici, d'un Américain, Tim Grierson. C'est un très bel éclairage sur 10 films différents, très différents de Martin Scorsese, très finement analysés, c'est aux éditions Larousse.
Nous étions en direct de l'hôtel Barrière Normandie à Deauville pour ce 43e festival du film américain. On remercie chaleureusement Hélène Langlois,
oui.
Andreas Jaffre, Sébastien Huel, Alain Fauché et Raja Boutni. La semaine prochaine à Paris, on va recevoir une grande romancière Anne Wiazinski. Merci au public d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Et le générique de fin est assuré par Josh et Benny Savdi.
This program was inspired by cinema.
It was filmed in sound, it's radio.
The title music was written by Sporto Kant.
The songs have been chosen by Muriel Perez.
Martin Meissonier prepared.
Sonier Leguien directed.
Christine Maison and Laurent Delma produced and presented.
And I, Joshua Safdie, was in it.
And I, Benny Safdie, was in it. I got confused there, sorry.